Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
C'est l'heure d'aller rejoindre mes amis du bureau parlementaire, Geneviève Lajoie, Rémi Nadeau et Nicolas Lachance. Rémi, c'est leur patron. Bonjour Rémi, c'est la première fois là-haut sur la colline, mais nouvelle vague, nouvelle mouture. Alors bienvenue. On commence par toi, grosse semaine budgétaire. Je sais qu'aujourd'hui, au moment où on est diffusé, samedi, tu publies ton papier de la semaine, tes pouces en haut, tes pouces en bas. Je me demandais quels sont tes angles, quels sont tes joueurs vedettes puis tes joueurs qui méritent des pouces en bas.
Bien, assurément, parce que l'exercice des pouces, c'est vraiment de dire qui a eu une mauvaise semaine, qui a eu une bonne semaine. Alors, je te dirais, cette semaine, il n'y a pas grand monde qui a marqué des points. C'est vraiment une semaine sous le signe...
C'est le festival des pouces en bas?
Oui, exactement. Bon, évidemment, on commence par Éric Girard. C'est sûr que le grand argentier du Québec, sûrement, n'est pas entré en politique pour présenter un budget avec le plus grand déficit en dollars absolus de l'histoire du Québec. Et le pire pour M. Girard, c'est vraiment le fait d'avoir estimé donc, qu'il y aurait un déficit de 3 milliards de dollars. À la mise à jour, il avait dit « bon, ce sera 1 milliard de plus, 4 milliards », mais là, finalement, on arrive à 11 milliards. Donc, l'écart entre ce qu'il avait prévu et le résultat des courses là, est vraiment… c'est décourageant. Là,
c'est ahurissant.
Oui, exactement. Donc, alors, c'est sûr que c'est une mauvaise semaine pour lui et ça a apparu là, tout au cours de la semaine. D'autres ministres du gouvernement de la CAQ, Jonathan Julien, même chose, mauvaise semaine. Monsieur Julien qui a l'intention de faire en sorte qu'au Québec, on puisse construire plus vite et à plus faible coût, a prononcé un discours devant l'Association des représentants de grands constructeurs de travaux. Et ça m'a fait penser à Mathieu Lacombe qui avait dit après une couple d'années au gouvernement, on se rend compte que ça ne va pas assez vite les projets de CPE. Mais là, c'est un peu la même chose. M. Julien qui admet que les projets étaient lancés, mal ficelés, qu'on précisait les besoins au fur et à mesure et que ça coûtait trop cher. Donc là, c'est comme un aveu. Tu sais, la CAQ est là au gouvernement depuis 6 ans pratiquement. Donc, d'arriver avec ce message-là aujourd'hui...
C'est l'expérience qui rentre, on dit, on dirait.
Alors, même chose, donc pas de bonne semaine pour M. Julien. Marois Risky s'est payé la traite là, en mettant sur les réseaux sociaux extrait de ce discours-là. Et du côté des partis d'opposition, quand même, moi, je mets une mauvaise note cette semaine pour Marc Tanguay, pour la réaction au budget. Contrairement, il y avait vraiment un grand écart entre la réaction de Marc Tanguay et de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui était tout en nuance. Marc Tanguay qui est allé de termes comme la soue à cochon. On a vu la soue à cochon de François Legault, qui a dit aussi les services, la qualité des services était bien meilleure dans le temps des libéraux. Pas vraiment. Là, on se rappelle qu'il y avait eu des rapports qui avaient présenté l'impact de l'austérité sur les services publics, sur les services directs rendus à la population.
Oui, puis je dois te dire que j'ai Carlos Letao à l'émission qui réitère son mea culpa sur l'éducation. Là. Il trouve qu'il est allé trop vite en matière de réduction des budgets en éducation.
Alors, Marc Tanguay, tu vois, moi, je trouvais que vers la fin de la précédente année, M. Tanguay s'était un petit peu raffiné, avait je trouvais qu'il avait commencé à mesurer un peu plus là, ses interventions. Puis là, cette semaine, on a vu là, le Marc Tanguay un peu là, comme un personnage de BD avec un visage en caoutchouc là, ou un Jim Carrey là, des années 90 là, qui veut faire des grimaces pour faire rire le monde. Là. En tout cas, ça me convient pas. Et puis, un dernier point aussi dans les ministres du gouvernement, j'oubliais Antoine, France-Hélène Duranceau qui a eu une très mauvaise journée hier.
Oui.
On voit donc les textes qui ont été faits là, à la suite de sorties publiques.
Et
là,
oui, on est vendredi matin au moment où on enregistre, là, puis c'est le coût par porte de maison pour femmes violentées, pour violence, les victimes de violences conjugales. Elle a dit 900 000, c'est beaucoup trop cher.
Ben, c'est ça. Alors, donc, on bloque des chantiers de construction de maisons, d'hébergement pour des femmes victimes de violences. Et je comprends, là, sur le plan, là, strictement, effectivement, de la rigueur budgétaire, la rigueur gouvernementale de dire, ben là, dans les projets pour les projets sociaux, on est davantage dans 450 000 par porte, 500 000 par porte. Mm-hmm. Puis là, on a lancé un projet de maison pour les femmes victimes, puis c'est 900 000 par porte, c'est trop cher. Mais comme il y a eu une sortie avec des représentantes de ces maisons-là, avec mm-hmm. les trois partis d'opposition, c'est un sujet extrêmement sensible. La façon avec laquelle Mme Duranceau a répondu un peu comme sèchement, disant juste « c'est trop cher », ça manquait trop d'empathie, ça n'a pas de bon sens. Je dis, tu peux pas, tu sais, et on peut pas comparer non plus avec n'importe quel projet social, parce que si une femme qui est menacée a pas de place dans une maison d'hébergement, risque d'être victime de violences encore plus graves, ben là, à ce moment-là, ça fonctionne pas. Puis rappelons-nous aussi, je le dis rapidement, mais Marguerite Blais qui se faisait poser des questions sur les coûts astronomiques des maisons des aînés au Salon Bleu. Et elle avait dit, là, ben là, est-ce que c'est quoi ça? C'est, il faudrait qu'on mette moins d'argent, c'est trop cher pour nos aînés. Nos aînés ont le droit d'avoir des bons services. Alors, c'est un peu la même chose là, dans ce cas-ci. Mme Duranceau a assurément manqué de sensibilité là, dans sa réaction hier.
On retourne au budget, puis on va parler avec Nicolas et Geneviève maintenant. Geneviève, t'as senti une mauvaise humeur d'Éric Girard mardi. Raconte-nous cette anecdote.
Oui, mais il faut se remettre dans le contexte. Hein. Éric ouais. Girard, on se rappelle qu'il a été passablement échaudé par l'histoire des Kings de Los Angeles, la subvention ouais. pour un match qui va se dérouler l'année prochaine. Depuis, là, on le sent très échaudé, très prudent, il fait attention. Et là, lundi, une autre erreur de sa part, de son équipe, il s'en va à Longueuil pour annoncer, pour faire sa sortie coutumière. À chaque fois là, qu'il y a un budget, la veille, il y a une sortie du ministre...
Séance de photos, souliers, habituellement. Oui, là, il n'y a plus de souliers.
Et brève allocution aux journalistes, quelques questions, tout ça. Mais ça se fait toujours... C'est de la tradition, là. D'habitude, mm-hmm. ça se fait à Québec. Et là, il a choisi Longueuil pour aller faire ça. Évidemment, bon, les partis d'opposition l'ont beaucoup critiqué pour ça. Lorsqu'il est arrivé au huis clos du budget, on se rappelle que le huis clos du budget, on est tout plein de journalistes qui sont coincés dans une salle en face du Parlement pour aller voir ce qu'il y a dans le budget, là, les gros documents. Mm-hmm. Le ministre vient toujours faire un petit tour avant sa conférence de presse dans le huis clos. Il fait un petit tour de tout le monde. Il vient nous voir, chacun des médias. Et quand il arrive proche donc des gens du Journal de Québec, du Journal de Montréal, il s'approche et puis bon, je lui lance à la blague que vous êtes revenu à Québec, mais ça n'a pas passé du tout.
Ah non.
Il était vraiment vraiment pas content de mon commentaire et ça lui a pris un moment avant de réagir en me disant ben écoutez là, la nuit dernière là. Il y a le président haïtien qui a démissionné. Puis nous, ici, on parle du fait que j'étais allée à Longueuil au lieu de Québec. Alors, il voyait, lui, une tempête dans un verre d'eau. Et visiblement, il était très, très affecté par ça. Et là, comme vous le disiez au début, là, c'est certain qu'il présente en plus un budget qui ne lui plaît assurément pas.
Lui, le conservateur fiscal, obligé de déposer un budget si déficitaire.
Le budget, le record, le budget qui aura un déficit en nombre absolu de 11 milliards, c'est un record.
Ouais.
Imaginez, lui, il va porter toujours le poids de ça.
Selon le PIB ou...
Nico, c'est vrai ça. Monsieur Legault a essayé de relativiser.
Absolument. Et Monsieur Girard, hier, a été confronté aussi sur la question de la cote de crédit. Puis encore une fois, en fait, hier jeudi, et encore une fois, il était vraiment de mauvais poil, soutenant que les oppositions et que les journalistes, on comprenait rien à ce que les agences avaient écrit dans un communiqué, qu'on était complètement dans le champ, que c'est lui qui comprenait ce qui était écrit, puis qui allait les convaincre de toute façon là, de la bonne tenue des finances publiques du Québec.
On en a parlé un peu, vu que t'as la parole, Nicolas. Beaucoup de nouvelles sur les voitures dans le budget. Et toi, tu, Tu t'es un peu concentré là-dessus dans ta couverture. Parle-nous un peu des chars.
Déjà en 2000, au Québec, on a une subvention qui s'appelle Rouler Vert, donc à l'achat d'un véhicule électrique ou hybride branchable, on a de l'argent, 7 000 $ présentement pour un véhicule 100% électrique de subvention du gouvernement du Québec. Donc c'était pour stimuler l'achat de véhicules électriques parce qu'on a des objectifs quand même ambitieux au Québec. On vise 2 millions de véhicules électriques sur nos routes pour 2030. Déjà au budget 2023, Monsieur Girard et le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, avait dit « Cette subvention-là, elle ne sera pas éternelle. » Eh bien là, c'était écrit noir sur blanc dans le budget cette année. La fin, 1er janvier 2027, plus aucune somme seront accordées pour cette subvention. Et ça sera graduel. Donc, dès le premier de l'an, cette année, elle sera réduite à 4 000 avant de tomber à 2 000 pour disparaître.
Ça a suscité des critiques, hein, notamment du Parti québécois, de Paul-Saint-Pierre Plamondon, qui, lui, est propriétaire d'une auto électrique, d'après ce qu'il nous a dit.
C'était quand même nuancé. Donc, on sent pas que les partis d'opposition sont contre la fin de la subvention. Certains trouvent que c'est trop rapide. Le gouvernement soutient qu'on arrive à maturité, que le prix des véhicules électriques et celle à essence seront bientôt à égalité, mm-hmm. Donc sommes toutes au même prix. Et le gouvernement soutient également, au Québec, on a une norme qui s'appelle la norme VZE, donc véhicule zéro émission. Par règlement, on est en train de forcer les concessionnaires et les constructeurs à vendre un nombre précis de véhicules. Ça va aller très vite, là. Bientôt, ça va toucher, avant la fin de la décennie, ça va toucher 90% des véhicules qui devront être vendus, devront être électriques. S'ils n'atteignent pas leur cible, ils doivent compenser par des crédits carbone et souvent, ils sont obligés de les acheter, par exemple, à Tesla, aux compétiteurs. Donc, ça commence à frustrer pas mal ces constructeurs-là.
Ouais,
donc,
OK.
Il y a quand même des lois au Québec, des normes qui obligent les concessionnaires à les vendre. Donc, ça risque de faire baisser également le prix des véhicules. C'est ce que soutient le ministère de l'Environnement. Et on a une loi pour 2035. Plus de véhicules à essence qui vont être vendus. Donc, de toute façon, le marché va se stabiliser au Québec. C'est ce qu'on dit. Et, bon, le gouvernement aurait pu faire comme en Allemagne puis tirer le jachelon d'un coup. Par exemple, en Allemagne, l'an passé, c'était terminé. Fini d'un coup. Là, on y va plus graduellement pour essayer justement de pas trop déstabiliser le marché. Il y a d'autres... c'est certain que, par exemple, Québec solidaire n'est pas contre cette mesure-là, mais eux... En dernières élections, en tout cas, soutenait que fallait aller dans d'autres directions comme ailleurs dans le monde, comme en France, par exemple, où il y a des bonus-malus. Dans le fond, c'est qu'au lieu d'être récompensé à l'achat, on est puni si on continue à acheter des véhicules polluants. C'est une façon de compenser et de mettre de l'argent dans les coffres de l'État.
Mm-hmm. Parlant des coffres de l'État, on sait, ils sont vides. Comment les remplir maintenant? Il paraît que ça va dépendre en partie de nos bassins hydrauliques, Geneviève. Il y a un nouveau mot, c'est un mot qui était connu, mais sur lequel on n'avait jamais insisté comme ça dans le budget, hydraulicité.
Oui.
Et ça t'a beaucoup intrigué cette semaine.
Ça m'a frappé déjà quand j'ai lu le budget, première lecture, hydraulicité des bassins d'Hydro-Québec. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un nouveau mot à la mode. Hein? Puis vous allez l'entendre de plus en plus, mais c'est pas rien ce mot-là, ça signifie 1,5 milliard de moins dans le budget. Là. Donc, ça fait, c'est en partie... à cause de ça qu'il y a un déficit aussi élevé au Québec. Mm-hmm. Et c'est quoi l'hydraulicité, en fait? C'est le niveau d'eau qui est trop bas, en tout cas, depuis l'année dernière, dans les bassins d'Hydro-Québec, et qui fait en sorte que Hydro-Québec, donc, produit de l'électricité majoritairement pour le Québec et exporte moins. Et donc, à cause de ça, on a moins de rentrées d'argent et Hydro-Québec, donc, fournit moins d'argent au gouvernement. Et ça fait un trou énorme dans les coffres de l'État. On s'attend évidemment à ce que, en tout cas, on a posé la question à Monsieur Legault, t'étais là, on a posé la question à Monsieur Girard à ce sujet-là, parce que c'est pas rien, là, c'est Dame Nature qui a énormément d'influence sur notre budget, et eux autres sont convaincus que c'est des cycles, et puis, ça va revenir. Mais tu sais, en tout cas, reste que la météo, donc, a énormément d'influence sur nos budgets.
Oui.
Si on se fie à ce qui se passe en Europe, où les étés sont de plus en plus chauds, aucune pluie, on le voit, nous, cette année, notre hiver est passablement sec, là. On n'a pas de neige. Et donc, ça risque d'arriver de plus en plus souvent. Mais bon, M. Legault et M. Girard semblaient convaincus que c'était vraiment exceptionnel, puis que ça allait pas revenir, là.
Donc, il va falloir qu'il pleuve. Mais tu sais qu'en faisant une revue de presse, là, je suis tombé sur un article de 2004. C'était Pierre Fortin, l'économiste, qui parlait de ça et qui disait qu'on sortait de 16 années de vaches maigres de pluie dans les années 90. Là, en 2004, c'était formidable. Les bassins étaient pleins, même débordaient. On sait qu'en 2020 aussi, on a jeté de l'eau par-dessus les barrages. Mais il y a eu d'autres époques dans le passé. Donc là, je trouve ça très intriguant, cette histoire de l'hydraulicité. Puis je me demande s'il va falloir ensemencer les nuages. Tu te souviens des années... souvenez des années 80, on parlait de ça, ensemencer les nuages. Nicolas, on revient à toi. T'es notre gars de char aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autos qui se vendaient à une pièce. Et c'est quoi cette histoire-là? On en a moins parlé après le budget, mais c'est une des mesures que le gouvernement a mis en place.
Ben, pour aller chercher de l'argent, on cherche comment aller chercher de l'argent. Donc, on va s'attaquer au marché du char usagé, donc la bonne vieille minoune. En fait, quand on va vendre une voiture usagée en citoyen, il y a un guide d'évaluation qui est sur 10 ans. Donc, oui. Selon le prix le plus élevé, disons, si moi, je décide de vendre ma voiture 2 000 $ mais qu'au guide est affiché 4 000 $ la valeur, on paiera la taxe de vente sur le 4 000 $ On vend notre voiture 2 000, mais on paye la taxe de vente selon le chiffre le plus élevé entre l'évaluation et le prix de vente. Après 10 ans, il y en avait plus de guide d'évaluation.
Okay.
Donc, les gens qui arrivaient avec une voiture qui datait de 11 ans, 12 ans, 13 ans, souvent déclaraient à la SAAQ au moment de l'immatriculation qu'ils l'avaient vendu juste 1 $ Donc, payaient pas de taxes de vente, même s'ils avaient payé la voiture, par exemple, 4 000 $ ou 5 000 $ C'est une façon de contourner un peu les lois. Mais en bref, le gouvernement a décidé de s'attaquer à ça et de bonifier le guide de 5 années supplémentaires. Donc, on pourra plus mentir pour une voiture âgée de 14 ans, par exemple.
Mm-hmm.
Et là, ben, c'est sûr que sur Internet, il y a eu des critiques, par contre, parce que les gens considèrent qu'on s'attaque aux gens qui ont moins de moyens, quand qui ont juste l'argent pour s'acheter un vieux bazou, une vieille minoune, pas une voiture neuve. Donc, c'est un peu les critiques qui sont ressorties. En même temps, la taxe de vente doit s'appliquer sur ce type de d'achat et de vente.
Bon, donc, c'est les règles. Mais si je peux me permettre...
Rémi, vas-y.
Ce que je déteste dans ce système-là, c'est le fait que un véhicule, la taxe de vente a été payée à l'achat du véhicule neuf.
Et c'est vrai.
Et quand quelqu'un conserve son véhicule longtemps... et le vend pas cher à un membre de la famille, par exemple un neveu ou un, tu sais, des fois, parce que ça reste dans la famille et qu'on veut donner une chance à cette personne-là qui commence dans la vie, et là, d'arriver à la SAAQ puis d'être obligé de payer un gros montant de taxes là-dessus, moi, je veux dire, ça me lève le cœur. Fait que je comprends la réaction.
Surtout qu'il y a souvent des réparations à faire sur ces véhicules-là, changer des choses. Donc, on va souvent injecter de l'argent supplémentaire pour la faire fonctionner un peu plus longtemps. Donc, ça peut frustrer.
Vous avez tous des articles aujourd'hui, samedi, dans le journal. Nicolas, tu as un dossier sur l'efficacité énergétique. Rémi, une chronique qui s'intitule, dis-moi, est-ce que tu le sais déjà?
C'est sur les dépenses, en fait. C'est sur le fait que bonne chance pour réduire les dépenses de l'État parce que M. Legault continue de gonfler la taille de l'État
pendant
ce temps-là.
Je reviens à Nicolas. Nicolas, donc, dossier efficacité énergétique... est-ce qu'on peut faire comme la France, hein? C'est ça? T'es allé en France faire un reportage?
Exactement. Puis ça vient un peu en lien avec ce que Geneviève parlait d'hydraulicité, du manque d'eau. Donc, l'ère des surplus électriques sont terminés. Ça fait 15 ans qu'on nous lance qu'on est en surplus, on vend notre hydroélectricité, que ça remplit les coffres de l'État. Bref, c'est terminé. Monsieur Fitzgibbon, le ministre de l'Énergie, le répète constamment. Et il va falloir se serrer la ceinture, peut-être pas dans notre portefeuille, mais de la façon où on va gérer notre lumière, notre chauffage, notre façon de consommer à la maison, quand faut partir nos électroménagers. En France, ils l'ont fait. Ils ont eu une crise énergétique en raison de la guerre en Ukraine, mais aussi ils ont eu des problèmes avec leur centrale nucléaire.
Okay.
Ils ont réussi à baisser de 12 % en un an leur consommation d'énergie. Bon, on nous forcera pas à faire ça, mais clairement, le gouvernement veut lancer le débat.
Ouais.
On consomme mal, c'est M. Fitzgibbon qui le dit. On est les derniers de classe,
c'est
encore lui qui le dit.
On gaspille.
Et Hydro-Québec nous demande va nous demander de consommer à des moments différents et de mieux consommer cette énergie-là. On va aller chercher 21 TWh, ça représente 1,2 ménages, 1,2 million de ménages au Québec. Donc, il faudrait enlever la consommation au Québec de 1,2 million de personnes. Est-ce qu'on va réussir à le faire? C'est ce que je vous présente en fin de semaine.
On va te lire avec intérêt. Geneviève, en terminant, toi, on te lit sur quoi aujourd'hui, samedi, ou demain, si on prend aujourd'hui où on enregistre?
Écoute, on verra. Ça va dépendre de ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale entre le ministre Julien puis la députée libérale Marois Risky.
Super! Merci beaucoup à vous trois, Nicolas Lachance, Geneviève Lajoie, Rémi Nadeau, puis on se reparle bientôt, mes amis du Bureau parlementaire.